France Inter, il est 13h. Le 13-14, Bruno Duvic.
Bonjour, soyez les bienvenus. Au sommaire aujourd'hui, virus du Covid, le nouveau variant qui inquiète, détecté en Afrique du Sud, multiples mutations, l'OMS suit l'affaire de près, une bonne partie de l'Europe, dont la France, ferme ses aéroports à l'Afrique australe, les indices boursiers sont en baisse, que sait-on de ce variant? Pas détecté à ce stade en France, nous verrons cela. Face à la cinquième vague en France, la logistique est-elle prête pour la campagne de vaccination? Le rappel, dans les collèges, des autotests seront distribués à partir de lundi aux élèves de 6e. Un cran de plus dans la violence aux Antilles, des tirs contre les forces de l'ordre et des journalistes, nous irons en Martinique. Avant cela, la Grande-Bretagne, méthode pas sérieuse, marre du double discours. La France très fâchée par la publication d'une lettre de Boris Johnson à Emmanuel Macron. Attendue dimanche en France pour travailler sur la crise des migrants, la ministre britannique de l'Intérieur n'est plus invitée. Autre motif de crise, sur les côtes, les pêcheurs français entament les opérations de blocage. Les accusations de viol et agression sexuelle de trois femmes contre Nicolas Hulot après la diffusion du documentaire de France 2, réaction politique, la justice va-t-elle s'en emparer? L'ancien ministre dément formellement. Nous ne voulons plus d'une justice qui n'écoute pas et chronomètre tout. 5000 magistrats, plus de la moitié de la profession, dénoncent leurs conditions de travail après le suicide d'une de leurs collègues. Une délégation a été reçue ce matin au ministère. À 13h30, deux jeunes magistrates nous racontent très concrètement leurs conditions de travail et leurs inquiétudes. 01 45 24 7000 et l'appli France Inter pour vos questions. Vos autres rendez-vous dans le 13-14, le vif de l'histoire. Pétain a-t-il protégé les juifs français comme le prétend Éric Zemmour? Non, répondent de longue date les historiens. Une preuve parmi d'autres, la rafle des notables en décembre 41, ce sera avec Jean Lebrun. Arrêt sur audience, comme chaque vendredi, récit de la semaine au procès des attentats du 13 novembre. Et puis dans C'est une chanson, nous écouterons du Nina Simone. Le 13-14, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter. Le 13-14.
Jusqu'où faut-il remonter pour retrouver une telle succession de crises diplomatiques entre la France et l'un de ses voisins européens? L'ambiance est polaire entre la France et le Royaume-Uni. Deux sujets en particulier cristallisent les rancœurs, la pêche et les migrants en Manche. La pêche d'abord. Désaccord persistant sur le nombre de licences à attribuer aux professionnels français dans les eaux britanniques. Les marins français durcissent le ton et passent aux opérations de blocage. Doivent être concernés ce vendredi Ouistreham dans le Calvados, Calais, ça commence, le tunnel sous la Manche et Saint-Malo. C'est là que vous êtes, Mathilde Dehimy.
Oui Bruno, la mobilisation a duré une heure tôt ce matin, les fusées de détresse éclairent le chenal, le vent et la pluie compromettent un petit peu les choses car les liaisons avec les ferries sont suspendues, mais les pêcheurs malouins ont tout de même retardé un bateau de pêche venu de Jersey. Maxime Prével, capitaine du Francani, a lui sa licence pour 5 ans mais il s'inquiète déjà de la suite.
Il est temps d'agir parce que vu qu'on n'est pas trop épaulé, c'est pas abattu mais c'est de la colère parce que c'est pas notre job normalement de faire ça. C'est au gouvernement de s'occuper de ça. Donc il y a un temps, si là-haut ça bouge pas, c'est les petits qui trinquent et donc va falloir qu'on bouge parce que c'est notre métier et on adore ça et on a envie de gagner notre argent à travailler dans notre métier et pas à rester chez nous quoi.
Les pêcheurs attendent plus du gouvernement français, mais surtout de Bruxelles, dans son bras de fer depuis 11 mois avec Londres. Ils sont prêts à hausser le ton. Franck Le Doussal, patron armateur du Times Chloé à Dinard.
Il y a un moment, on va pas rester calme. Donc quand ça va commencer à se durcir et que si ça bouge pas, il y a un moment, ça va péter. Faut rentrer dedans dans les Anglais, c'est tout. C'est pas eux qui vont décider de ce qui se passe et tout ça. Il y a eu un traité qui est fait. Non, il y a un moment, faut arrêter les bêtises.
Et ils ont déjà une idée pour durcir les négociations à leur manière. Maxime Prével.
On pourrait peut-être bloquer des plus gros bateaux plus importants comme la Brittany Ferries, de Saint-Malo jusqu'au Nord-Pas-de-Calais. Là, c'est beaucoup de millions en jeu pour la boîte britannique, donc il va falloir négocier.
Eux ne souhaitent pas en arriver là, car s'ils ne sortent pas en mer, ils ne touchent rien et bloquent en plus leur filière de transformation. Un crève-cœur donc à l'approche des fêtes de Noël qui sont cruciales pour leur saison.
Mathilde Dehimy avec Romain Luquiens à Saint-Malo pour France Inter à Calais également. Les opérations de blocage ont commencé, début de blocage des ferries dans le port. De chaque côté de la Manche, le ton est de plus en plus sec également. Deux jours après la mort de 27 migrants qui tentaient de rejoindre le Royaume-Uni, la Grande-Bretagne accuse la France de ne pas suffisamment faire la police. Réponse française, Londres ne nous donne pas les moyens promis pour assurer les opérations. Chacun sent bien l'urgence qu'il y a à apporter des réponses après cette tragédie. Hier soir, Boris Johnson a écrit à Emmanuel Macron pour lui demander que la France reprenne les immigrés qui arrivent en Grande-Bretagne illégalement. Et fait inhabituel dans les pratiques diplomatiques, la lettre a été rendue publique. La France le prend fort mal. Une réunion est prévue dimanche sur le sort des migrants entre le nord de l'Europe et le Royaume-Uni. La ministre britannique de l'Intérieur n'est plus invitée après la publication de cette lettre. Et en déplacement à Rome, Emmanuel Macron a ces mots à l'égard des Britanniques.
Je suis surpris des méthodes quand elles ne sont pas sérieuses. On ne communique pas d'un dirigeant l'autre sur ces questions-là par tweet et par lettre qu'on rend publique. Nous ne sommes pas des lanceurs d'alerte. Allons, allons. Donc les ministres vont travailler sérieusement pour régler une question sérieuse avec des gens sérieux. C'est pour cela que dès dimanche, le ministre Darmanin réunira ses homologues de l'Union européenne et la Commission pour travailler sur ce sujet. Et ensuite, nous verrons avec les Britanniques comment agir efficacement s'ils décident d'être sérieux.
En propos recueilli par Bruce de Gelsin, les Britanniques pas sérieux, voilà pour les déclarations d'Emmanuel Macron ce matin. Car en effet, sont en revanche invités à la réunion de dimanche des représentants et ministres belges, néerlandais, allemands et de la Commission européenne. Mais donc, plus la ministre britannique de l'Intérieur, Priti Patel. Ce matin, un ministre anglais était chargé de faire le tour des médias dans son pays. C'est le ministre des Transports, Grant Shapps. Il demande à la France de reconsidérer sa position à propos de la réunion et de rétablir l'invitation.
Aucune nation ne peut s'attaquer seule à ce problème. J'espère que la France va reconsidérer sa position. C'est dans notre intérêt, le leur aussi, et surtout dans l'intérêt des personnes victimes de ces trafics. Les amis et les voisins doivent travailler ensemble. Il n'y a pas d'autre moyen d'aborder le problème.
Bonjour Richard Place.
Bonjour.
Correspondant de France Inter à Londres, vous êtes en direct avec nous. Deux sujets avec vous à 13h06. D'abord, il faut examiner cette proposition britannique que la France reprenne les migrants arrivés illégalement en Grande-Bretagne. Est-ce que le gouvernement à Londres en dit plus sur l'application de cette idée ?
Non, là-dessus, aucun détail. L'idée est lancée par une lettre de 3 pages rendue publique tard hier soir, mais Boris Johnson et son gouvernement ce matin ne donnent pas de précision sur la mise en application de ces retours automatiques. Peut-être n'ont-ils pas développé ce point connaissant à l'avance la réaction de la France. Une réaction brutale, la réunion de dimanche sur les migrants se déroulera donc avec l'Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas, mais sans le Royaume-Uni, alors qu'il est question de traverser de la Manche. Il y a un peu plus de 2 mois, la ministre de l'Intérieur avait annoncé la mise en place d'une stratégie toute nouvelle ici, renvoyer certaines embarcations de migrants d'où elles viennent, donc les raccompagner vers la France, grâce à des agents en jet-ski. Une proposition qui ne respecte ni le droit international, ni le droit maritime, qui est très compliquée à mettre en œuvre et surtout qui mettrait en danger les migrants concernés. Une proposition qui n'a jamais été appliquée. Des deux côtés du Channel, donc, on est avant tout dans la posture.
Ce qu'il faut ajouter, Richard, c'est que la lettre et la proposition britannique interviennent dans un contexte politique particulier chez vous.
Oui, dans un contexte politique qui fait que Boris Johnson est en difficulté actuellement, en difficulté dans sa propre majorité, après un scandale de corruption au sein du Parlement britannique qu'il a très mal géré, dont il s'est mal occupé. Il est plutôt à la baisse dans les sondages, alors eh bien, il doit donner des gages à sa majorité, notamment à la partie la plus extrême de sa majorité. On sait que chez les conservateurs, et en particulier chez les brexiteurs, la question des migrants dans la Manche est une question centrale. Take back control, prendre le contrôle de la Manche et de ses flux migratoires, c'était l'un des axes de la campagne du Brexit et on voit bien aujourd'hui que le gouvernement britannique ne reprend pas vraiment le contrôle, se retrouve encore confronté à ce problème-là et essaye de rejeter la faute une nouvelle fois sur la France dont on dit ici dans le camp des conservateurs, dans le camp de la majorité, qu'elle n'est gouvernée qu'avec l'idée de la présidentielle qui approche, dans laquelle Emmanuel Macron serait, selon ces mêmes conservateurs, mal engagé.
Richard Place en direct de Londres pour France Inter. Quoi qu'il en soit, la virulence du ton en France interpelle. Méthode britannique pas sérieuse, dit donc le président de la République. Marre des doubles discours, avait dit un peu plus tôt le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. C'est une critique qui revient régulièrement à propos de Boris Johnson, quand il dirigeait le Foreign Office, l'équivalent du Quai d'Orsay, et aujourd'hui au 10 Downing Street. Franck Madvon a interrogé à ce sujet et dans ce contexte le correspondant Europe du quotidien britannique The Guardian.
Boris Johnson a tout intérêt de montrer que non seulement le Brexit était une bonne idée, mais que le Brexit marche. Il essaie de démontrer que la Grande-Bretagne a repris le contrôle et il a tout intérêt à surtout une sorte de querelle permanente avec la France, le voisin le plus proche, le meilleur ennemi, si vous voulez, de la Grande-Bretagne. Ces désaccords, il y en a multiples, hein. Il y a donc la pêche, les migrants, la question de l'Irlande du Nord, le fait qu'Emmanuel Macron est fondamentalement pro-européen, tout cela alimente ces tensions dans la relation franco-britannique. Et évidemment, il faut ajouter à tout ça la personnalité, le caractère de Boris Johnson. Quelqu'un d'assez spontané, assez peu fiable, qui peut changer de direction d'un jour à l'autre.
Tension entre France et Grande-Bretagne à propos des migrants en Manche. À l'autre bout de l'Europe, le président biélorusse Alexandre Loukachenko se met en scène à la frontière avec la Pologne, que tentent de passer des milliers de migrants depuis cet été, ces dernières semaines tout particulièrement. Loukachenko, accusé d'avoir orchestré ses arrivées, s'est rendu dans un centre d'accueil de migrants, mi-compréhensif, mi-menaçant. Comprenez, nous ne pouvons pas lancer une guerre pour ouvrir un couloir vers l'Allemagne. Autre point de tension pour le gouvernement, en France cette fois-ci, aux Antilles, la Martinique et la Guadeloupe vivent à l'heure du couvre-feu, mais les soirées et les nuits sont tout de même émaillées de violence. À l'origine de la crise, le refus du pass sanitaire et de l'obligation vaccinale pour les pompiers et soignants. La crise a pris une toute autre dimension ces derniers jours, des militants violents et armés montent des barrages. Bonjour Jérôme Valle.
Bonjour Bruno.
Vous êtes en direct de Fort-de-France, Jérôme. Ces dernières heures, en Guadeloupe et où vous êtes en Martinique, des policiers et des journalistes ont essuyé des tirs.
Oui, quatrième nuit consécutive de violence sur l'île. Dès hier soir, en fait, nous avons vu un épais nuage noir envelopper une zone de Fort-de-France, puis une odeur âcre de brûlé est venue jusqu'à nous. Une grande partie de la nuit, nous avons entendu des détonations. Et puis c'est devenu une habitude, des barrages enflammés sont installés un peu partout. Deux en bas de notre hôtel, je me trouve à côté de l'un d'eux, une voiture calcinée et un réfrigérateur également calciné. Un fourgon de gendarmes s'est posté devant l'entrée de notre hôtel dans la nuit pour en protéger l'entrée. Puis vous l'avez dit, il y a eu ces tirs contre quatre journalistes lorsque les passagers d'une moto sont passés à leur hauteur. Ils n'ont pas été blessés. En revanche, 10 policiers ont été blessés cette nuit sur des barrages. Une pharmacie a été pillée dans le quartier Sainte-Thérèse à Fort-de-France, un peu partout dans l'île. Les barrages se multiplient et certains des occupants de ces barrages demandent des péages. Et je mets bien ce mot entre guillemets, c'est plutôt du racket, une rançon allant jusqu'à 25 euros pour pouvoir passer, comme en témoignent des automobilistes sur les réseaux sociaux. Alors hier, en début de soirée, la préfecture avait annoncé l'avancement du couvre-feu à 19h, couvre-feu strict pour, disait-elle, favoriser un retour à une situation apaisée. Vous l'avez compris, Bruno, on en est encore très très loin.
Jérôme Valle, en direct de France Inter, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin annonce une dizaine d'interpellations. Et pour les soignants et pompiers qui refusent toujours l'obligation vaccinale, ils sont 1200, 1300, une solution individuelle est envisagée. Le gouvernement se refuse à parler de l'obligation, de lever de l'obligation vaccinale à ce stade. Voilà qui nous amène au Covid et le sujet qui inquiète scientifiques, mais aussi dans les aéroports et sur les places boursières. Ces dernières heures, ce nouveau variant du virus détecté en Afrique du Sud. Réunion de l'Organisation mondiale de la santé aujourd'hui à ce sujet. Bonjour Véronique Julien.
Bonjour.
Véronique, ce nouveau variant n'a pas encore été diagnostiqué en France, précise ce matin Olivier Véran. Que sait-on de lui ?
Alors pour l'instant, on est à une trentaine de cas en Afrique du Sud et au Botswana. Il y a aussi quelques cas exportés en Israël, à Hong Kong, chez des patients en provenance d'Afrique du Sud et du Malawi. Les autorités sud-africaines précisent que ce variant se propage vite, qu'il est donc potentiellement très contagieux et qu'il présente des mutations multiples, au moins 10, on parle même d'une trentaine, quand le variant Delta, pour comparer, n'en avait que 2. Alors faut-il s'inquiéter de ce nombre de mutations ? Et est-ce que ce virus va immanquablement arriver jusqu'à nous ? Pour le virologue Jean-Michel Pavlotsky, on manque encore de précisions sur ce variant, donc à ce stade, évitons de s'affoler.
Ça recommence comme l'année dernière, où chaque fois qu'on détectait un nouveau variant, on avait « faut-il s'inquiéter ?» et la panique à bord. Ce variant-là, je ne sais pas du tout ce qu'il va donner, personne n'en sait rien. Est-ce que ce virus est vraiment très facilement infectant ? J'en sais rien, il faut regarder, mais il n'y a pas une relation mathématique entre le nombre de mutations et les propriétés. C'est pas celui qui a le plus de mutations ce qui va être le plus dangereux.
On ne s'inquiète pas. Outre mesure à ce stade, tout de même, Véronique, faut-il avoir peur d'une moindre efficacité des vaccins ?
Les autorités sanitaires sud-africaines là-dessus ne sont pas très rassurantes. Elles disent redouter que ce variant, je les cite, soit capable de contourner certaines parties de notre système immunitaire. On a vu déjà qu'avec le variant Delta, nos vaccins perdaient 40% d'efficacité contre les transmissions. L'OMS a déclaré ce matin qu'il faudra des semaines avant de déterminer l'impact qu'aura ce variant sur les vaccins disponibles. On remarquera quand même qu'avec le variant Delta, on est certes moins protégé de l'infection, mais on reste quand même très protégé contre les formes grave.
Et plusieurs semaines seront nécessaires pour comprendre l'impact de ce nouveau variant et sur la transmission du virus et sur l'efficacité des vaccins. C'est ce que précise ce matin l'Organisation mondiale de la santé. En tout cas, il a déjà, ce variant, un effet assez fulgurant. Quelques heures seulement après l'annonce de sa détection, la France suspend les arrivées d'avions en provenance d'Afrique australe. C'est le cas d'une bonne partie de l'Europe, Éric Biégala, et les indices boursiers sont en baisse marquée.
Oui Bruno, et les deux choses en fait sont liées quasi mécaniquement. L'Europe, par la voix de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, annonçait ce matin vouloir, je la cite, « actionner le frein d'urgence pour arrêter tout voyage depuis l'Afrique australe ». L'Allemagne, l'Italie et la France ont donc annoncé suspendre la plupart des voyages en direction ou en provenance des pays d'Afrique australe, Afrique du Sud en tête, c'est là que la plupart des cas du nouveau variant ont été identifiés. La Grande-Bretagne, qui envoie tout de même près d'un demi-million de touristes en Afrique du Sud tous les ans, a pris des mesures similaires, de même qu'Israël et Singapour. Des annonces de restrictions qui ont eu des répercussions immédiates sur les valeurs des voyagistes et des transporteurs. À l'ouverture des bourses européennes ce matin, les titres de compagnies telles que IAG, la maison mère de British Airways, plongeaient de 15%, EasyJet reculait de 12%, quant au groupe TUI, le voyagiste allemand, leader mondial des agences de voyage, il perdait 10% de sa valeur, tout comme Airbus. Des plongées qui ont entraîné avec elles les principaux indices boursiers, le CAC 40 à Paris, l'indice DAX à Francfort ou le FTSE de Londres étaient tous en recul à la mi-journée de 3 à 4%.
Moins 3,3% très précisément pour le CAC, précisément en ce moment, CAC repassé sous les 7000 points. Et donc la France qui n'a pas détecté sur son territoire ce nouveau variant, France face à la cinquième vague, nouvelle contamination au plus haut depuis le mois d'avril, près de 33 500 hier et de nouvelles mesures, en particulier la dose de rappel ouverte à tous les adultes à partir de demain, 5 mois après la deuxième dose. Selon Doctolib, plus d'1 250 000 personnes ont pris rendez-vous depuis hier. Alors même si le ministre Olivier Véran assure qu'il y a les doses et les points de rendez-vous pour assurer cette nouvelle campagne de vaccination, c'est quand même un défi logistique, Sophie Becherel.
Oui, d'autant que 19 millions de personnes sont éligibles à partir de demain et que pour garder leur passe sanitaire valable, ces personnes doivent faire le rappel dans les 2 mois. Aujourd'hui, à l'heure où on se parle, les doses sont là, 25 millions en stock, dit le ministre de la Santé, et 4 millions de Pfizer, BioNTech et Moderna ont déjà été livrés dans le réseau de ville, autrement dit aux médecins, aux pharmaciens, aux infirmiers, bref, tous les libéraux qui vaccinent. Les pharmacies engagées sont au nombre de 15 000 et même si l'on constate des bugs sur les plateformes de prise de rendez-vous, avec notamment des informations parfois erronées, ces pharmacies ont encore des créneaux disponibles. 240 000 à compter le site VitMadeOS qui dresse par ailleurs une carte départementale. On voit d'ailleurs que les situations diffèrent d'une région de France à l'autre, avec une bande centrale sur le territoire moins bien doté en vaccins que le nord, la façade est et la façade ouest. Alors donc, pour le moment, il reste donc des créneaux pour ceux qui le souhaitent. Si besoin, disait hier Olivier Véran, de nouveaux centres de vaccination seront rouverts pour compléter l'offre actuelle. 1100 sont encore actifs, oui. Mais sans pouvoir préciser avec quelles équipes, à l'heure où les soignants, vous le savez, sont occupés ailleurs et très fatigués.
Pour les collégiens, annonce de Jean-Michel Blanquer ce matin sur France Inter, 2 autotests par semaine seront distribués à partir de lundi aux élèves de 6e. Vous avez entendu avant-hier dans ce journal les dénégations très fortes de Nicolas Hulot avant même la diffusion du reportage d'Envoyé spécial. C'était donc hier soir sur France 2. 3 femmes accusent l'ancien ministre et animateur d'Ushuaïa. Caresses ou baisers surprises, tentatives de fellation forcée. Les faits sont prescrits. Ils datent, selon ces témoignages, de la période 1989-2001. Il y a près de 4 ans, en février 2018, le magazine Hebdo avait publié une première enquête assez critiquée à l'époque avec une accusation de viol. L'affaire avait été classée sans suite, prescrite elle aussi. Yael Goz, entre les réactions politiques à l'époque et celles aujourd'hui, on mesure à quel point les temps ont changé rapidement.
Oui, car à l'époque, déjà avec les mêmes ficelles de communication de crise, Nicolas Hulot devance la parution de l'article pour mieux discréditer les accusateurs. Un ministre star, derrière lequel tout l'exécutif fait bloc. Nous sommes le 8 février 2018, sorti du Conseil des ministres. Le porte-parole de l'époque s'appelle Benjamin Griveaux.
Il n'y a pas d'affaire, il y a des rumeurs. Donc le président de la République a assuré Nicolas Hulot de son entier soutien, tout comme l'a fait le Premier ministre et je crois l'ensemble des membres du gouvernement.
Mais ça ne s'arrête pas là. 3 jours plus tard, tribune de Marlène Schiappa dans le JDD pour dire que les accusateurs de Nicolas Hulot bafouent la parole des femmes, d'où le boomerang aujourd'hui. Fallait-il faire à ce point l'autruche? Changement de ton à tous les étages du gouvernement. Le garde des Sceaux ne dit pas non à l'ouverture d'une enquête. C'est désormais aussi la ligne de Marlène Schiappa.
S'il y a des éléments, eh bien je souhaite, la justice est indépendante et je ne donne aucune consigne à la justice, mais j'espère que la justice ouvrira une instruction et pourra véritablement s'en saisir et l'instruire.
Marlène Schiappa sur BFM. Et sa collègue Elisabeth Moreno, qui a repris le portefeuille des droits des femmes, prend moins de pincettes encore avec Nicolas Hulot.
dire que quand on a, ou sous-entendre que quand on a un physique ingrat, la seule manière d'obtenir les faveurs d'une femme, c'est de la contraindre, mais c'est totalement irresponsable.
Attention au jugement a posteriori, à l'anachronisme, met en garde un proche d'Emmanuel Macron. Comment critiquer notre réaction d'il y a 3 ans alors que nous n'avions pas tous ces éléments, tous ces témoignages? À l'époque, l'accusatrice ne voulait pas être médiatisée. Aujourd'hui, elles sont plusieurs et elles parlent face caméra.
Il n'y a aucune enquête en cours sur les faits présentés hier dans Envoyé spécial, insiste l'avocat de Nicolas Hulot. On rappelait à l'instant son démenti très fort mercredi. Il parle de lynchage, d'affirmations mensongères. Ce n'est ni sur les réseaux sociaux, ni sur les plateaux de télévision que l'on fait la justice, dit le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti. Mais en effet, il ajoute que peut-être le parquet se saisira de cette affaire. Jean-Philippe Degnaud, la pratique d'ouvrir une enquête, même pour des faits prescrits, est devenue plus courante ces derniers mois dans des affaires d'accusation d'agression sexuelle.
Oui, parce qu'elle permet cette enquête de rechercher d'autres plaignants éventuels sur des faits plus récents qui permettraient dans ce cas de relancer des investigations. Alors c'est ce qui s'est produit par exemple dans le dossier ouvert contre Gérard Louvain et son mari Daniel Moine pour des viols incestueux prescrits, mais 5 nouvelles plaintes ensuite, elles sont toujours en cours de traitement, ont été déposées et parfois cette procédure ne permet pas d'aller plus loin, comme dans les dossiers qui ont visé l'écrivain Gabriel Matzneff, le politologue Olivier Duhamel ou encore le conseiller de Paris Christophe Girard. Et puis enfin, troisième type d'enquête toujours en cours, et notamment celle qui vise Richard Berry ou Christophe Ruggia, mis en examen pour des agressions sexuelles commises sur Adèle Haenel quand elle était mineure.
Tout à l'heure dans le 13-14, autre sujet à propos de la justice, cette tribune signée par quelques 5000 magistrats, plus de la moitié de la profession, qui dénoncent leurs conditions de travail après le suicide d'une de leurs jeunes collègues en août. J'attends vos questions sur ces conditions de travail des magistrats, 01 45 24 7000. Arrêt sur audience, notre rendez-vous chaque vendredi pour suivre le procès des attentats du 13 novembre, procès ouvert depuis 2 mois et demi. Et chaque vendredi, nous reprenons le fil de la semaine avec l'une de nos 2 envoyées spéciales. Bonjour Charlotte Piret.
Bonjour.
En direct du palais de justice de l'île de la Cité avec Jérémy Tuile. Aujourd'hui, pour la dernière audience de la semaine, 5 accusés sont absents du box. Ils étaient 4 absents hier, dont Salah Abdeslam. Ils contestent les conditions dans lesquelles la Cour entend des enquêteurs belges qui témoignent de manière anonyme.
Oui, de manière anonyme et en visioconférence depuis Bruxelles. Ils n'ont pas voulu faire le déplacement jusqu'à la cour d'assises spécialement composée ici à Paris. Ça a fait l'objet de plusieurs débats devant la cour entre avocats de la défense qui demandaient à les avoir ici. Et finalement, les enquêteurs belges ont avancé l'argument qu'ils avaient été menacés en Belgique et donc ont obtenu gain de cause. Mais les accusés ne l'entendent pas de cette oreille et donc 5 d'entre eux refusent de venir à l'audience. Un huissier vient constater leur refus et donc ils s'apprêtent à passer une nouvelle journée, puisque c'était déjà le cas hier pour 4 d'entre eux, dans les geôles du palais de justice. À noter que l'enquêteur belge qu'on a entendu hier, le premier d'une série de 10, en a agacé plus d'un, pas seulement les accusés, notamment partie civile, mais aussi les avocats généraux, et voire même le président en fin d'audience, par son refus de répondre à un certain nombre de questions, ou le fait de renvoyer un peu systématiquement vers ses collègues qui devraient lui succéder dans les prochains jours.
Alors voilà pour l'actualité la plus chaude de ce procès. Remontons un peu plus loin dans la semaine, un autre moment marquant, c'est quand a été évoqué le parcours de 2 hommes surnommés les Autrichiens, Charlotte.
Oui, alors qu'ils n'ont rien d'Autrichien. On les appelle ainsi parce qu'ils ont été interpellés en Autriche et que c'est l'Autriche qui les a remis à la France dans la perspective de ce procès. L'un est pakistanais, Mohamed Ousmane, l'autre est algérien, Adel Adadi. Et on a surtout découvert à quel point ce duo était un duo un peu improbable parce que ces hommes ne s'aiment pas. Ils l'ont dit comme ça devant les enquêteurs. Ils ne parlent pas la même langue, l'arabe ou l'ourdou selon l'un ou l'autre. Ils ne partagent pas la même culture. Et en fait, ils ont quand même fait cause commune, leur cause à eux finalement, tout au long depuis cet appartement de où ont été décidées les attaques, en passant par une traversée en zodiac de la Méditerranée, la route des migrants à pied, en train, etc., jusqu'à un camp de migrants en Autriche où ils finiront par être interpellés. Au total, ils ont passé près de 4 mois ensemble dans un seul objectif qui était pour eux celui de venir en France participer à une action suicide. Ils sont arrivés trop tard pour participer au 13 novembre 2015.
Allez Charlotte, dernier éclairage sur la semaine. Chaque vendredi, c'est aussi votre expérience du procès que vous nous racontez avec Sophie Parmentier, les coulisses, l'ambiance. Ambiance qui a changé, dites-vous, alors qu'on en est, sauf erreur de ma part, à la 12e semaine.
Oui, et au 50e jour d'audience exactement aujourd'hui. Oui, cette ambiance, elle a changé parce que on se souvient des 5 semaines d'audition de partie civile et le poids écrasant de leur douleur qui a véritablement remué tout un chacun ici dans la salle d'assises spécialement composée. Ici, maintenant, on est toujours dans un sujet évidemment tout aussi sérieux, et c'est avec sérieux qu'on juge, mais il y a un peu plus de légèreté qui s'invite ici et là, on peut le dire, avec le président qui s'autorise même de temps à autre quelques blagues. On l'a vu par exemple après la déposition d'un enquêteur autrichien, Thomas Pepper, Pepper comme le poivre en anglais, le remercier pour cette déposition qui ne manquait pas de sel par exemple. On l'a vu aussi dire « Ah, mais tout le monde se lève !» alors que l'audience n'était pas totalement suspendue, mais parce qu'on était un vendredi soir et que chacun avait un peu envie de rentrer chez soi. On l'a vu également finalement plaisanter avec un avocat de la défense face à un enquêteur qui refusait de répondre à une question en disant oh, « Je n'aime pas non plus ma réponse, on est à égalité sur ce point ». Voilà, c'est effectivement anecdotique, mais ça donne un petit peu un ton différent et une tonalité légèrement, un peu plus légère finalement, que celle dans laquelle on a été plongé pendant de nombreuses semaines ici.
On est très loin de la grande lourdeur que vous nous décriviez ces dernières semaines. Merci Charlotte Piré, en direct du Palais de Justice de l'Île de la Cité à Paris, avec Jérémy Thuil. Et ce procès fleuve doit durer jusqu'au 25 juin. Emmanuel Macron reçu par le pape ce matin au Vatican. C'est la deuxième fois depuis le début de son mandat. Avec François, le président de la République devait évoquer la question des migrants, le rapport Sauvé sur les violences sexuelles au sein de l'Église. Bonjour Maxence Lambrec.
Bonjour.
En direct de Rome, c'est aussi un signe envoyé à l'électorat catholique, évidemment.
Oui, évidemment. Faire oublier, au moins éloigner les lois bioéthiques, séparatisme, la fermeture des églises pendant la première vague, la polémique sur le secret de la confession, pour ne retenir que cette chaleureuse image d'un pape tout sourire aux côtés d'Emmanuel Macron. On n'est pas dupe, lâche un évêque français, mais vous savez, le pape est toujours bienveillant. Le Vatican aurait pu rejeter cette demande d'audience à l'approche de la présidentielle, mais les deux hommes s'entendent bien, se tutoient, leur tête-à-tête a duré près d'une heure, comme en 2018. Crise migratoire, climatique, internationale, l'Élysée n'a pas encore révélé la teneur de leurs échanges. À l'issue, le président a voulu insister sur leur point commun, la congrégation jésuite qui tenait le lycée d'Emmanuel Macron à Amiens et dont le pape est issu. Il est donc venu avec deux biographies de Saint Ignace de Loyola, fondateur des jésuites. « Tu le connais mieux que moi », a-t-il lancé au pape. Puis Emmanuel Macron a passé plus d'une heure avec le numéro 2 du Vatican, le cardinal Parolin, liant le geste à la parole. Il a redit dans les colonnes de la Croix, du Figaro, son opposition à la GPA, à l'allongement du délai de l'IVG, à un débat précipité sur la fin de vie. Message directement adressé à l'électorat catholique, en partie tenté par le discours identitaire. À Rome, Éric Audra, Maxence Lambrec, France Inter.
Et Maxence en direct avec nous. En effet, politique et religion, autre déclaration aujourd'hui. Le diocèse de Marseille demande à Éric Zemmour, qui est en déplacement aujourd'hui à Marseille, de ne pas s'exprimer à l'intérieur de la Bonne Mère, la basilique Notre-Dame de la Garde. Il avait prévu un point presse. Le diocèse précise que la position aurait été la même, quel que soit le candidat. Ce qui est demandé à Monsieur Zemmour, dit-on au diocèse, c'est que ce point presse se passe à l'extérieur des grilles du sanctuaire. Tout autre sujet, un nouveau David Bowie. Mais oui, dans les bacs aujourd'hui. L'album Toy est exhumé ce vendredi. Il était resté sur une étagère pendant 20 ans. Le chanteur et sa maison de disques n'avaient pas réussi à se mettre d'accord en 2000 à l'issue de l'enregistrement de ce qui aurait dû être le 23e album studio de Bowie. Mais les fans, les purs et durs, connaissent déjà le contenu, sorti dans une version pirate qui avait fuité sur le web. Quelques titres s'étaient retrouvés sur des compiles ou des faces B, quelques chansons aussi peu connues et issues de son répertoire, comme celui-ci, I Dig Everything, déjà sorti dans les années 60. Voilà pour cet extrait de I Dig Everything, tiré de l'album Toy de David Bowie, qui est donc exhumé et présenté aux fans, ceux qui ne le connaissaient pas. Aujourd'hui, un dernier mot pour vous dire que au PSG, le directeur sportif Leonardo conforte l'entraîneur Pochettino, on dit d'ailleurs, il dément tout contact avec Zidane. C'est auprès de l'AFP qu'il dément cela. Dans un instant, la météo.
De son vivant. Le nouveau film événement d'Emmanuel Berco.
Comme vous le savez, je crois, il ne va pas revenir tout de suite.
Avec Catherine Deneuve et Benoît Magimel.
Alors il m'a dit de vous dire, essayez, osez, risquez, trompez-vous.
Un film lumineux et bouleversant.
Vivez chaque chose jusqu'au bout, intensément.
De son vivant, actuellement au cinéma.
Découvrez 2022, la revue qui vous plonge dans les coulisses de la présidentielle. Portraits, récits, enquêtes, 216 pages pour raconter les arcanes de la campagne avec des journalistes politiques, des auteurs de littérature, des intellectuels, des photographes et des dessinateurs. Ce premier acte explore les faiseurs de rois, les lieux de pouvoir, la fabrique de l'info, les personnages de l'ombre, ceux qui vont faire l'élection. Vivez la présidentielle autrement avec 2022, la revue éphémère des éditions Robert Laffont.
Le temps de ce jour.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour femmes. Laine, fil d'Écosse, soie ou cachemire. Belle et naturelle. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Bonjour Elodie Calac.
Bonjour à tous.
Ça ne pouvait pas durer. Dégradation pour le nord-ouest, amélioration en Méditerranée.
Oui, on a le retour d'éclaircies tout de même en Méditerranée avec du vent fort, toujours des averses orageuses en Corse. Et puis ailleurs, beaucoup de nuages, quelques averses possibles, quelques petites chutes de neige à basse altitude sur les massifs et une nouvelle perturbation qui gagne en effet les régions du nord-ouest vers le bassin parisien, le nord de la Seine avec du vent. Elle s'enfoncera progressivement vers le sud et l'est apportant un petit air d'hiver puisque cette nuit de bonnes chutes de neige vont tomber à basse altitude en montagne. Parfois quelques centimètres jusqu'en plaine sur le nord-est. Et puis sur le nord-ouest, sur le nord, c'est un ciel de giboulées qui prendra le relais. Des giboulées de grésil, pluie et neige mêlée ou neige au menu et du vent fort sur les côtes jusqu'à 100 km à l'heure.
Elodie Calac, Météo France, il est 13h31, les invités du 13-14.
France Inter, le 13-14, Bruno Duvic.
On les entend très rarement parler à titre personnel de leur métier, mais à leurs yeux, la situation est devenue trop grave pour se taire. La pétition des magistrats, nous ne voulons plus d'une justice qui n'écoute pas et qui chronomètre tout, réunit à présent 5000 signatures, plus de la moitié de la profession. C'est beaucoup, c'est énorme même. Le texte a paru dans le journal Le Monde cette semaine. Le point de départ, c'est le suicide d'une magistrate le 29 août dernier. Elle s'appelait Charlotte, elle avait 29 ans. Après 2 années à courir d'urgence en urgence et à travailler week-end et vacances compris, après avoir alerté sur sa souffrance, elle a mis fin à ses jours. Que se passe-t-il dans les tribunaux et bureaux de magistrats pour que la moitié d'une profession appelle à l'aide de cette manière? Une délégation a été reçue ce matin par le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti. Une justice au chronomètre, donc. J'attends vos questions au 01 45 24 7000 et sur l'appli France Inter pour dialoguer avec vous. Deux jeunes magistrates sortis de l'école en 2017, la même promotion que Charlotte ou que Floriane, qui a démissionné l'année dernière. J'ai vu bien trop de collègues en souffrance, qu'ils se l'avouent ou qu'ils le déni, écrivait-elle. Nos deux invités sont donc Albertine Munoz, vous êtes juge d'application des peines à Bobigny. Avant cela, vous étiez ce qu'on appelle juge placé, c'était aussi la fonction de Charlotte, ce qui veut dire qu'au sein d'une cour d'appel, vous venez en soutien pour compléter les effectifs, cour d'appel de Paris en l'occurrence pour vous. Et Nelly Bertrand, vous êtes juge d'application des peines à Pontoise. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Une justice qui n'écoute pas et qui chronomètre tout, cela se manifeste comment dans votre travail quotidien? Qui veut commencer? Nelly Bertrand.
C'est une justice qui chronomètre tout parce que on n'a pas le temps concrètement de réaliser les tâches du quotidien qui nous sont allouées. Pour vous donner des exemples, on a 900 dossiers par exemple dans un cabinet d'application des peines en milieu ouvert, ce qui signifie que on a des audiences pour lesquelles 18 à 20 personnes sont convoquées en même temps sur une matinée et ça leur laisse finalement un temps de parole de 15 minutes pour exprimer leur situation et pour indiquer quels vont être les arguments qui vont permettre de faire aménager leur peine, par exemple. Donc ça peut avoir...
Oui, parce que ce sont des décisions lourdes qu'on prend quand on est juge d'application des peines, un maintien en prison, une mesure privative ou au contraire une liberté accordée. Enfin voilà, c'est des décisions de cette nature-là que vous avez à prendre et donc aussi rapidement que cela.
Voilà. Enfin, très globalement, c'est la vie des gens qui est en jeu, qu'on a entre nos mains, on le sait. Ces gens-là ont besoin d'être écoutés et on n'est concrètement pas dans des conditions qui nous permettent de le faire correctement. Lorsqu'on est à l'école de la magistrature, on a des grands principes qui nous sont appris, des principes d'écoute de l'autre, des principes d'impartialité, des principes de dignité, de respect d'autrui. Et ces principes-là, on n'est pas en mesure de les appliquer actuellement.
Vous disiez 900 dossiers dans votre cabinet, pour combien de magistrats?
Alors, c'est dans uniquement mon cabinet, c'est 900 dossiers. Ouais. On est 8 magistrats à l'application des peines dans mon tribunal à Pontoise.
Ouais. Albertine Munoz, pareil, concrètement, cette justice au chronomètre, cette justice qui n'écoute pas dans votre quotidien, ça se traduit comment?
Alors, comme vous l'avez souligné, moi aujourd'hui, je suis juge d'application des peines, donc je fais le même constat que Nelly. Vous l'avez également dit, j'ai été juge placé. Ça veut dire que pendant 2 ans, j'ai été de tribunal en tribunal dans la cour d'appel dans laquelle j'étais juge placé. J'étais amenée notamment à être juge d'instance. Enfin, ça s'appelait comme ça avant. Donc, c'est-à-dire à m'occuper de tous les litiges civils du quotidien, c'est-à-dire les conflits de voisinage, les gens qui n'arrivent pas à payer leur loyer. Et j'avais également en charge la question du surendettement. Et concrètement, j'ai vécu ça, de présider des audiences de 9h à 15h sans interruption pour juger 50 dossiers. Moi, j'avais fait le calcul. Ça veut dire que déjà, je faisais attendre les gens des heures. Et au moment où ils passaient devant moi, je n'avais que 7 minutes pour les écouter et apprécier la situation dramatique dont ils me faisaient état. Et quand je dis la situation dramatique, c'est-à-dire que j'avais des gens en pleurs devant moi parce qu'ils n'arrivaient plus à payer leur loyer et la question qui se posait c'était de savoir si moi ou pas j'allais permettre leur expulsion. J'avais également des gens en surendettement, des gens qui attendaient dans mon tribunal depuis 2 ans pour voir le juge du surendettement. Par définition, quand on est en surendettement, c'est-à-dire qu'on est dans une situation explosive. Et ces gens-là, ils ont dû attendre 2 ans pour me voir et au bout de 2 ans, je ne peux leur accorder que 7 minutes pour qu'ils fassent état de leur situation. Et c'est intéressant parce que nous, on parle du temps et on en a parlé dans notre tribune, déjà le temps qu'on n'a pas en audience. Et finalement, le travail de magistrat, mais ça fait partie d'ailleurs de nos obligations déontologiques, c'est que pour bien rendre une justice, il faut du temps. Et un temps qui est incompressible. Il y a le temps pour écouter les justiciables, mais il y a aussi nous le temps pour décider. C'est-à-dire on doit avoir du temps pour réfléchir. Oui. Et ça, on n'en a pas parce qu'en fait, on doit vider les stocks.
Nelly Bertrand nous disait l'écart entre les principes appris à l'école de la magistrature et ce que vous vivez sur le terrain au quotidien. C'est votre cas à vous aussi. À la sortie de l'ENM, en quelque sorte, vous êtes tombé de votre chaise. On vous prépare pas à ça, Albertine Munoz.
C'est vrai que ce qui est assez dommage, finalement, j'ai envie de dire, c'est que à l'école de la magistrature, on est extrêmement bien préparé. D'ailleurs, la France est réputée pour la qualité de la formation des magistrats. On est un modèle, parce que c'est quand même une formation qui dure environ 30 mois, et c'est un temps qui est nécessaire. Et heureusement qu'on nous apprend à être de bons magistrats. Et c'est vrai que quand on arrive en juridiction, eh bien, oui, il y a un gap énorme entre ce qu'on nous a appris, ce qu'on est censé faire et la façon dont on fonctionne en juridiction. Pour vous donner un autre exemple concret, parce qu'en plus, je pense que c'est pour ça que notre tribune a autant touché les gens, c'est que on a parlé de situations concrètes. Moi, j'ai siégé lors d'audiences correctionnelles, c'est-à-dire le tribunal correctionnel, les comparutions immédiates. Et à l'école, on nous apprend à motiver une décision, ce qui paraît quand même la base dans un pays démocratique. Quand on prive quelqu'un de sa liberté, quand on le déclare coupable et qu'on l'envoie en prison, ça paraît une évidence qu'il faut qu'on dise pourquoi on le déclare coupable, pardon, et pourquoi on estime qu'il doit aller en prison. Et en fait, en France, dans beaucoup de tribunaux, on a tellement de stocks que nous n'avons pas le temps de motiver les décisions. Donc on rend des jugements, où on envoie les gens en prison, et vous avez 2 lignes dans le jugement pour dire compte tenu des éléments du dossier, la personne est déclarée coupable, compte tenu des éléments de sa personnalité, nous la condamnons à 10 mois d'emprisonnement. C'est ça aujourd'hui la réalité de la justice en France. Et ce n'est pas satisfaisant pour nous, et encore moins pour les justiciables. Et c'est pour ça que nous, on est en souffrance.
Je précise que votre parole est précieuse parce que d'habitude, on entend des responsables syndicaux et ça n'est pas votre cas. Nelly Bertrand, et puis on va au standard. Vous vouliez ajouter quelque chose? Je voyais que vous approuviez ce que disait votre collègue.
Oui, j'approuve totalement ça. C'est-à-dire que on a des injonctions contradictoires en permanence. Il y a des exigences qui sont faites aux magistrats et c'est bien normal. Des lois qui sont faites en permanence et qui nous demandent toujours plus et notamment de motiver nos décisions et notamment les décisions correctionnelles dont elle parlait. C'est ce qu'on nous apprend en formation initiale mais aussi en formation continue, c'est-à-dire que tous les magistrats continuent à suivre des formations tout au long de leur carrière. Et on voit bien qu'on est dans l'incapacité d'appliquer tout ce qu'on nous apprend. Et ça génère chez les magistrats énormément de souffrance qui n'est pas uniquement due à la charge de travail, mais qui est aussi due à des principes qui ne peuvent pas être respectés, alors même que les magistrats qui rentrent dans ce corps ont à cœur de respecter les justiciables.
Évidemment, exigence des justiciables même aussi. Jean-Jacques, j'ai été condamné à tort pour un cambriolage que je n'avais pas commis. Le jugement, alors à tort ou à raison, c'est une autre question. Le jugement a été fait en quelques minutes. J'étais condamné d'avance, estime-t-il. Ça a été très douloureux. J'ai eu envie de mettre fin à mes jours. C'est le quelques minutes que je retiens dans ce message. J'ai pas à me prononcer évidemment sur le dossier. Et puis Laurent, au standard avec nous. Bonjour Laurent.
Bonjour, bonjour, Laurent Guerlot.
Nous vous écoutons.
Bonjour, je suis Laurent Guerlot, je fais partie de l'association Égalité Parentale qui défend des grands-parents, des mères et des pères qui sont en situation d'exclusion parentale dans le domaine des affaires familiales.
Oui.
Et en fait, j'abonde dans le sens des propos de ces deux magistrates dont je salue le courage, car en effet, le déficit de moyens mis dans les affaires familiales aujourd'hui fait que le temps d'audience après 9 mois d'attente est de 12 minutes, le temps d'instruction est de 18 minutes. Aujourd'hui, évidemment, on est tous émus par le suicide de cette jeune femme qui était épuisée. Sachez que derrière chacune des décisions qui fait beaucoup de tort aux familles qui attendent énormément de la justice dans ces moments difficiles, génère aussi beaucoup de morts, et en l'occurrence c'est 900 pères, 400 mères, plusieurs enfants qui meurent à cause de ces longues procédures. Donc derrière ce manque d'effectifs, c'est vraiment un grand fléau qu'il faut traiter tous ensemble, et on vous intègre, messieurs, mesdames les magistrats. Dans ce sens, on vous invite le 17 décembre à la manifestation pour l'égalité parentale qui démarrera de Bastille pour tous ensemble faire changer, bouger les lignes et améliorer ce système qui est déficitaire, dysfonctionnel et qui fait souffrir nos enfants.
Merci pour ce témoignage. Que répondez-vous? Je vois que vous prenez des notes, Albertine Munoz, après le témoignage de notre invité. Il y a ça aussi, c'est-à-dire de notre auditeur. Il y a ça aussi, c'est-à-dire vous voyez bien dans le regard, j'imagine, des justiciables que cette justice rendue très rapidement n'est pas satisfaisante pour eux non plus.
Tout à fait, et c'était aussi le propos de ce texte. C'est pour ça qu'on voilà, on a voulu l'ouvrir à signature et qu'on voulait que ça soit publié dans un journal, parce que ce texte, il s'adresse principalement à nos collègues pour leur dire « vous n'êtes pas seuls dans notre souffrance », mais surtout aux justiciables, parce que c'est vrai que finalement, on prend très rarement la parole et que finalement, ce temps d'écoute qu'on est censé leur accorder en audience, en entretien, il n'existe plus. Et pour leur dire, et c'est pour ça que c'est important pour nous de le dire, on comprend votre souffrance à vous aussi. On comprend que vous n'ayez plus confiance en nous, en la justice qu'on rend, parce qu'on fait le même constat que vous. Et d'ailleurs, c'est intéressant cette intervention, parce que ça parle aussi de la souffrance de nos partenaires. Donc, nous, il y a les magistrats, mais il y a également les greffiers.
Voilà, j'ai un message de Laurence qui est greffier depuis 30 ans. La justice est devenue un monde éreintant. On nous en demande toujours plus pour une justice rendue au rabais. Je me demande si je ne vais pas changer de profession.
Tout à fait. Bah, c'est intéressant que vous disiez ça, parce que ça aussi, nous, on le constate autour de nous au niveau des magistrats. Il y a de plus en plus de jeunes collègues qui se disent, je ne vais pas rester dans la magistrature.
Alors pardon, mais il y a quand même eu une hausse très sensible du budget, il y a quand même eu des embauches, il y a quand même eu plus de recrutement au sein de l'école de la magistrature. Vous ne voyez pas ça sur le terrain?
Alors,
Nelly Bertrand?
Moi, je m'exprime en tant que professionnelle encore une fois.
Oui, il n'y a pas de problème.
Aujourd'hui,
mais est-ce que vous voyez ça sur le terrain? Plus 8% deux années de suite, c'est historique, dit Éric Dupond-Moretti.
Oui, alors je vais le dire très clairement, non, on le voit pas sur le terrain aujourd'hui. Dans mon service, pour être très concrète, on a une personne qui va partir en congé maternité très bientôt, une personne qui va partir à la retraite en janvier, on a un greffier en moins, deux adjoints administratifs qui assurent le secrétariat en moins, et la directrice de greffe qui s'en va. Finalement, on va se retrouver en pénurie complète de moyens. On ne sait toujours pas si ces personnes vont être remplacées ou pas, et on n'a jamais eu de renfort de juridiction, de personnel.
Non. Alors, juste, on arrive déjà quasiment au terme de cet entretien. Je voulais savoir comment s'est passée la réunion ce matin avec le ministre. Au fond, qu'est-ce que vous attendez de lui?
Juste pour finir sur les chiffres, parce que c'est intéressant, vous le soulignez, j'ai
on
un collègue...
On a parlé de chronomètre, je vais vous parler en secondes, mais allez-y, allez-y.
D'accord. En fait, j'ai un collègue, et je ne connaissais même pas ce chiffre moi-même, qui me dit souvent, et savais-tu Albertine, qu'en 1840, pour 35 millions de Français, il y avait déjà 8500 magistrats. Aujourd'hui, on est 67 millions de Français, et il y a 8400 magistrats en juridiction. C'est tout ce que je voulais dire en termes de chiffres.
Est-ce que vous attendez juste la réunion, est-ce que vous attendez du ministre?
Nelly
Bertrand.
Alors sur le contenu de la réunion, il est un peu trop tôt encore pour s'exprimer. Nous, on a entendu ce que le ministre avait à nous dire. On a pu lui exprimer certaines choses aujourd'hui. Ce qu'on veut maintenant, c'est que sur le temps long, il y ait des résultats concrets qu'on puisse voir en juridiction, que l'ouverture qu'on a créée avec cette tribune puisse avoir des répercussions réelles pour le quotidien des magistrats et pour celui des justiciables.
Vous l'avez senti un tout petit peu marqué par le fait que 5000 magistrats aient signé ce texte?
Oui, alors on s'attendait très franchement pas à autant de soutien de la part de nos collègues et le fait que autant de magistrats aient signé, de greffiers, d'auditeurs de justice montre l'ampleur du phénomène.
Merci à toutes les deux d'être venues dans les studios de France Inter. Je sais que ça n'était pas forcément évident, mais c'était important de vous entendre. 13h44.
France Inter,
le 13-14.
À suivre le vif de l'histoire. Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Bruno.
Le maréchal Pétain a-t-il protégé les Juifs de France? Des années que les historiens répondent par la négative. Vous nous raconterez un terrible épisode parmi d'autres qui commence en décembre 41.
La rafle des notables juifs français, parmi lesquels nombre de magistrats.
Rendez-vous dans 10 minutes avant cela, le dernier épisode du feuilleton. Et tout de suite, c'est une chanson. Bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Bruno.
Elle est la directrice musicale de la maîtrise de Radio France. Ce chœur d'enfants qui est une des richesses de notre maison, c'est aussi une femme bluffante, la chef de chœur, mezzo-soprano Sophie Janin. À votre micro aujourd'hui, Frédéric, à quelques jours d'un concert pour le temps de l'Avent, à l'approche de Noël. Ce sera à l'auditorium de la Maison de la Radio et de la Musique. Et
cela fait maintenant 13 ans qu'elle dirige la maîtrise Sophie Janin. Maîtrise qui, sur ses deux sites de Paris et Bondy, accueille 160 élèves du CE2 à la terminale. Ils ont entre 7 et 15 heures d'enseignement musical par semaine. Il donne 30 concerts par saison. Alors, quel est celui qui a laissé le souvenir le plus marquant à Sophie Janin ?
Le souvenir le plus marquant pour moi, je pense que c'est la première fois que j'ai travaillé avec eux, tout simplement. Quand j'ai entendu les timbres en direct, en salle de répétition, et il se trouvait que c'était mon audition, en fait, de recrutement. Et j'étais tellement enchantée d'entendre ça, cette matière, ces timbres absolument merveilleux.
On parle d'une matière sonore ?
Oui, absolument. Avec à la fois l'enthousiasme et la fraîcheur de la jeunesse, mais une technicité, un savoir-faire d'une grande maturité.
Ils travaillent beaucoup, ces enfants ?
Ils travaillent énormément, mais ils adorent ça.
Et quelle excellente idée, c'est Nina Simone qui a choisi de nous faire écouter Sophie Janin, Frédéric.
Avec Buck, une chanson sortie en 1967 sur l'album Nina Simone Sings the Blues, un album que Sophie Janin a découvert dans la discothèque de ses parents chez elle quand elle était petite à Stockholm, un album qu'elle a écouté en boucle quand elle était enfant.
Ce qui était poignant pour moi, dès un très jeune âge, j'ai essayé de me souvenir quel âge j'avais, mais je crois que peut-être même 5 ou 6 ans, quand je me suis rendu compte que cette femme qui était au piano et qui chantait, qu'elle était sans peur, et que c'était quelqu'un qui allait sans crainte, et quelqu'un qui avait un courage, je trouve, juste sensationnel, qui s'entend en fait, que c'est quelqu'un qui chante peu importe ce que les gens pensent.
Très bonne pianiste également.
Oui, et ça, j'adorais l'écouter jouer. C'était cette liberté aussi d'expression, d'être aussi entre les genres, d'avoir une formation classique et parfois même faire des clins d'œil très, très directs hein, vers la musique baroque. Et puis en même temps, avec une assise et un ancrage dans le blues qui est juste extraordinaire.
Mais pourquoi avoir choisi cette chanson-là plus qu'une autre ?
Contrairement à d'autres chansons de Nina Simone que j'adore, mais qui sont presque déchirantes, là, on est dans une célébration d'un amoureux, on est dans la joie de l'interprétation. Elle chante avec une élégance, avec une grâce, elle module sa voix tellement délicatement, de façon très sensuelle. Et puis, je suis une très grande fan de Bernard Purdy à la batterie. Et je pense qu'il faut chercher très très loin pour trouver quelqu'un qui peut donner les mêmes breaks avec la même détente et la même élégance que lui. Mais on n'est pas dans un discours de grande éloquence. Hein. On parle de quelqu'un qui a des grandes mains et qu'elle est juste extrêmement amoureuse de lui et qu'elle aime bien quand il prend son bain, etc. On est dans la joie et dans la sensualité. Il y a un côté juste fun, quoi. Un côté ludique, presque, j'adore.
Buck, de Nina Simone. C'était donc Frédéric, le choix de Sophie Janin.
Chef de chœur suédoise, directrice musicale de la maîtrise de Radio France, dont le prochain concert aura lieu mardi prochain à 20h à l'auditorium de la Maison de la Radio, au programme notamment du Josquin des Prés et du Benjamin Britten. Ce sera beau, ce sera fun.
Bon week-end. Dernier moment avec les deux bouchers parisiens au cœur de notre feuilleton cette semaine. Depuis lundi, ils nous ont raconté la reconversion autour de la trentaine. Ils faisaient tout autre chose avant, l'importance du commerce de proximité, les liens avec les fournisseurs, à l'heure où beaucoup de clients veulent du circuit court. En conclusion, qu'est-ce qu'un bon boucher ? Eh bien, au micro de Sarah Guibaudot, parole à deux clients, Roland de Linares et Benjamin Tixier. Mais d'abord, discussion avec un des deux patrons autour d'un morceau de viande.
Il n'y a pas plus fondant, quoi.
Tu parlais de quoi ?
De la joue de bœuf. C'est typiquement un morceau qui était un peu oublié parce que c'est un morceau qui demande beaucoup de cuisson, c'est très long. Mais c'est pas compliqué et c'est un morceau qui, une fois très cuit et bien cuit, ça se mange à la petite cuillère tellement c'est fondant.
Vous la sortez quand même une petite heure avant du frigo, histoire qu'elle revienne à température ambiante.
Là je vois un monsieur donc qui commande avec sa famille. Est-ce que vous cuisinez depuis longtemps ? Ou est-ce que c'est, par exemple, depuis le confinement que vous y êtes
mis ? Non, c'était bien avant. D'accord. Je m'y suis mis un peu tard, mais non, ça fait une dizaine d'années. Après, il faudrait demander au public, enfin, mes principaux clients.
Donc, votre compagne et vos deux garçons ?
Oui.
Et tout le monde aime bien la viande ?
Oui.
Oui, oui, tout le monde, je confirme.
Lucien, t'aimes la viande ou pas ?
Oui.
Et c'est important d'avoir un bon boucher dans son quartier ?
Ah oui, c'est très important. Ça devient difficile, d'ailleurs. Après, il y en a peu aujourd'hui qui font maturer de la viande, en fait. La plupart, en fait, ils achètent des bêtes assez jeunes, enfin, ils débitent, en fait.
À quoi vous voyez la différence ? À quoi vous voyez que c'est un bon boucher ?
Il y en a pas envie de voir ce qui se passe, voir la tête de la viande, voir aussi, justement, s'il y a de la maturation ou pas, voir si elle est persillée ou pas. Le gras, c'est la vie.
Je partage.
Quand on parle de la maturation de la viande, c'est le fait de laisser rassir les morceaux dans le frigo. Effectivement, ça va attendrir, ça va casser les fibres de la viande et du coup, ça va lui rajouter cette mâche et ce goût qui va être assez exceptionnel, mais ça demande du temps. Si je prends cette côte de bœuf, par exemple, mais vous voyez là, par exemple, on voit bien, c'est complètement noir. À Paris, les bouchers disent qu'il faut que la viande soit rouge. En province, les gens, quand la viande est un peu plus noircie, ça leur fait moins peur, donc voilà.
Moi, ça me rappelle ce que disaient mes grands-parents, par exemple. Mais en effet, j'ai perdu cette habitude.
Oui, exactement. La viande, il ne faut pas forcément qu'elle soit rouge pour qu'elle soit bonne. Donc, de temps en temps, ça sèche un peu. C'est pas grave.
Ça fait partie de notre métier, d'éduquer un peu le client et de lui montrer quels sont les bons morceaux, quels ne sont pas. Après, c'est vrai que la culture de la viande, par ses parents, ce genre de choses, je pense, a un peu disparu.
La nourriture industrielle est passée par là à une époque.
Voilà, c'est ça, c'est bien ça le problème. Donc là, les gens sont plus à se faire leur culture avec nous. Quand même, le week-end, il y a des gens qui viennent les jours de marché, qui savent ce qu'ils veulent, qui sont vraiment un peu passionnés. C'est les gens qui prennent le temps le week-end de vouloir cuisiner. Et ça, c'est les gens qu'on aime avoir parce que c'est quand même assez plaisant.
Avec nos coquettes, monsieur. Comme ça, ça me paraît bien.
On pense souvent typiquement aux fêtes, à Pâques ou à Noël.
Qu'est-ce que ça a de particulier, cette période, pour vous ?
Il y a un gros enjeu de fournisseurs, en fait, d'approvisionnement. À Noël, en fait, on vend beaucoup de volailles festives, qui sont notamment des chapons et des poulardes, et qui sont des bêtes qui sont élevées très très longtemps. On est aujourd'hui le 1er novembre à peu près, on a déjà passé nos commandes de toutes nos volailles de Noël. Autant vous dire qu'on n'a aucune idée de si on va tout vendre, de si on va manquer. Donc du coup c'est un peu l'excitation qui va monter et c'est une période assez sympa aussi parce que du coup on accompagne nos clients sur les recettes qu'ils vont faire, ils ont envie de bien recevoir, c'est des bons moments en famille. Surtout cette année, on ne sait pas trop comment ça va être étant donné que l'année dernière c'était plutôt des petites tables parce que les gens n'osaient pas trop se réunir avec le Covid.
Il y en a qui prennent du gibier, d'autres des chapons, d'autres des rôtis de chapons. Donc pour les gens, c'est un moment important.
Le petit-fils qui est là, il a bien mangé, il en a bien profité, j'imagine.
Une semaine dans leur vie, notre feuilleton réalisé par Lucie Lemarchand. Les épisodes sont à retrouver sur franceinter.fr et sur les plateformes de podcast. Une semaine dans leur vie.
France Inter.
le 13-14.
13h54, le vif de l'histoire. C'est une vieille querelle tranchée par les historiens, mais que le toujours pas candidat à la présidentielle Éric Zemmour essaie de raviver plus de trois quarts de siècle plus tard. Pendant la Seconde Guerre mondiale et sous l'occupation, De Gaulle aurait été le glaive, Pétain le bouclier. En sacrifiant les juifs venus de l'étranger, il aurait sauvé 95% des juifs de France. Il faut donc encore répondre à cela. Le thème de votre émission Intelligence Service, demain à 18h, Jean Lebrun sera donc De Gaulle et Pétain. Plusieurs dossiers mal connus en disent long. Ainsi, celui de la rafle des notables juifs français de décembre 41.
D'abord le paysage, l'antisémitisme du régime de Vichy. L'organisme si à Vichy, disait De Gaulle, qui lui refusait toute légitimité, distinguait juifs venus de l'étranger et juifs de France. Des premiers, il convenait de se débarrasser. Et d'abord par l'internement, première loi sur ce sujet, octobre 40. À la même date, les Juifs de France, eux, sont statufiés. Enfin, entendez par là qu'un premier statut leur est appliqué qui leur interdit l'exercice de quantité de fonctions et de professions, à commencer par celles liées à l'armée et à l'école. Pour le maréchal, l'école prépare à l'armée, donc ni enseignant ni officier juif. Même si le vainqueur de Verdun assure vouloir protéger ces bons vieux Juifs de France qui avaient combattu à ses côtés. C'est lui qui porte le glaive chez les juifs, mais il faut toujours qu'il passe pour le bouclier.
Et pourtant, les premiers convois juifs pour Auschwitz, le 1 et le 2, embarqueront de nombreux juifs de France, des notables qui plus est.
Alors en histoire, il est bon de mondialiser ce qu'Éric Zemmour a du mal à faire. En 41, l'assaut de l'Allemagne contre l'URSS. À la fin de 41, l'engagement des États-Unis font monter la guerre aux extrêmes. Et en France, les attentats se multiplient. Éric Zemmour demande, mais des communistes qui tirent sur des officiers dans la rue, c'est ça la résistance? Le général de Gaulle avait fourni la réponse dès octobre 41, si les Allemands ne voulaient pas être tués, ils n'avaient qu'à rester chez eux. En tout cas, les 10 Allemands prennent en représailles des mesures drastiques et le temps des rafles commence. La première concerne des juifs étrangers, convoqués par un billet vert à la préfecture de police pour un prétendu examen de leur situation. 3700 personnes sont capturées. Mais le 12 décembre 41, ce sont 743 juifs français, cette fois, qui sont arrêtés d'un coup. Généralement des bourgeois, qui ont souvent occupé de hautes fonctions, et ceux qui ne le sont pas ont été pris dans les filets pour faire nombre. Ils sont bientôt regroupés à Royallieu, un ancien casernement de Compiègne, dont les zones A et B étaient déjà occupées par des communistes, des étrangers et autres indésirables. La zone C, où on les entasse, n'est aucunement aménagée. L'air de décembre passe par les fenêtres cassées et les toits troués. Les notables, on va les appeler ainsi par commodité, se retrouvent comme abasourdi. Il y a là Jean-Jacques Bernard, le fils de Tristan Bernard, René Blum, le frère de Léon Blum. Il cherche à actionner au dehors des ressorts sociaux qui pourraient leur permettre une libération. Maurice Gouquette, le mari de Colette, réussit à en bénéficier. Puis l'hiver se fait interminable. Les raflés réclament à leur famille des vêtements, des couvertures, de la nourriture. Ce qui est singulier dans leur courrier, c'est qu'ils demandent aussi leur décoration. Croix de guerre, Légion d'honneur. Le régime de Vichy voulait remplacer le gouvernement par le nombre, le gouvernement élu, par le gouvernement des meilleurs, des chefs. Bah, il aurait pu trouver dans le comportement de certains des internés de Compiègne des exemples extraordinaires. Ainsi, Pierre Masse, avocat, parlementaire, il avait envoyé dès le statut d'octobre 40 des lettres insolentes au maréchal. Et ciblé par les services de Vichy, il avait bénéficié d'une arrestation individuelle. À Royallieu, il a donné moult conférences, se souciant même d'ériger un petit tribunal pour juger les délits que les prisonniers pouvaient commettre entre eux. Masse croyait au droit français. D'ailleurs, le garde des Sceaux, en réponse à Éric Zemmour, vient de donner son nom à l'une des salles de la chancellerie Place Vendôme.
En mars 1942, les convois 1 et 2 pour Auschwitz viennent marquer un arrêt à Compiègne pour embarquer les notables raflés de décembre 41.
Ils partiront avant même les juifs étrangers, arrêtés avant eux, qui composeront seulement les convois 4, 5, 6, en la circonstance, entendre encore dire que Pétain a sauvé les juifs de France est quand même assez surprenant. Le statut des juifs numéro 1, 1940, le statut des juifs numéro 2, 41, qui aggrave le premier, ont induit des recensements et fourni ainsi le vivier des déportables. L'historienne Annette Becker, qui prépare un livre sur la rafle des notables, a retrouvé le rapport du commissaire de police de Compiègne qui a dû présider à la déportation au printemps 1942. Il a vu un homme s'approcher et demander, cherchant un ultime recours, les noms des magistrats de la ville. C'était le président Lemley. Moins de 3 ans auparavant, il était devenu célèbre pour avoir présidé le procès d'un fameux assassin en série, à la gueule d'ange, Weidmann. Maintenant, il était embarqué de force dans un train de la SNCF, enchaîné. Les gendarmes français avaient cru nécessaire d'enchaîner tous ces hommes comme des criminels de droit commun. Et qu'a dit Lemley pour conclure ? On les Français quand même.
Intelligence Service ce samedi, De Gaulle et Pétain, 1940-1942, ce sera à 18h. Un tout petit mot, Mathieu Vidard, l'Atéro Carré aujourd'hui, c'est club.
Eh ben voilà, à tout à l'heure Bruno, merci beaucoup.